Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Dans cette libre antenne du dimanche soir, nous avons 2 heures à passer ensemble pour dialoguer, pour échanger, pour mettre des mots sur les choses de la vie, des mots qui quelquefois sont emprisonnés depuis trop longtemps dans un silence pesant, un silence qui en dit long. Les mots du silence sont des mots très rares qu'on ne trouve dans aucun livre, qui restent longtemps coincés dans la poitrine, qui se glissent parfois jusque dans la gorge mais n'arrivent pas jusqu'à la bouche. Les mots du silence ne sont pas faits pour être entendus avec les oreilles. Les mots du silence se murmurent avec des gestes infimes et des mimiques immobiles. Ils se lisent avec les yeux fermés, s'écoutent avec le cœur, se gardent au profond de soi dans la douceur des émotions. Cet extrait des Contes d'errance et Contes d'espérance de Jacques Salomé. Tous ces mots-là, venez les partager ce soir sur cette libre antenne. Venez me raconter vos expériences de vie, qu'elles soient négatives ou positives. Venez me parler de ce qui vous touche, de ce qui vous pose problème, ou au contraire, venez partager des idées, raconter des événements, des moments particuliers qui vous ont fait voir la vie autrement, qui vous ont aidé à avancer. C'est le partage qui fait la richesse de cette émission. Pour y participer, 3 possibilités. Vous appelez directement le Standard Europe 1, le 3921, et vous tomberez sur Amandine ou sur Hassan qui vous accueilleront avant de vous guider jusqu'à moi. Soit vous intervenez par SMS en tapant le 739-21 et en commençant bien par le mot « nuit ». Ou alors par mail à libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Le seul qui ne parle pas ce soir, mais c'est parce qu'il est bien concentré sur ses manettes, c'est Fabrice Fougeroz à la réalisation. Il est prêt, vous aussi. Alors la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et ce soir, pour commencer, on va reprendre comme promis la conversation commencée hier soir avec Pascal. À tout de suite.
Europe 1.
Chose promise, chose due. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Sabine.
On s'était donné rendez-vous ce soir parce qu'hier on avait eu très peu de temps pour faire connaissance et pour commencer à discuter. Si vous me le permettez, je vais résumer peut-être en quelques mots ce qu'on avait commencé à se dire pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir.
Je t'en prie.
Donc vous m'aviez appelé au départ pour partager avec moi cette expérience douloureuse que vous aviez vécue. Vous avez été abusée à l'âge de 5 ans par votre parrain, qui n'était donc pas directement un membre de la famille, mais qui était quelqu'un en qui vous aviez confiance.
Oui, du haut de mes 5 ans.
Ou en tout cas dans quelqu'un en qui vos parents avaient confiance.
Exactement.
Voilà. Et qui vous a, comme souvent dans ces circonstances-là, qui vous a détruite.
Voilà.
Et puis, vous aviez aussi commencé à aborder avec moi la perte d'un bébé. Vous souhaitez qu'on commence par parler de quoi, là, tout de suite?
Je ne sais pas, comme vous souhaitez.
Peut-être qu'on reprenne la conversation autour de ce parrain. Donc, vous m'aviez expliqué que c'était quelqu'un qui était aussi votre voisin et que régulièrement, quand vos parents partaient, vous alliez en toute confiance jouer chez lui.
Ben, c'est-à-dire que mes parents étaient sur leur ferme. Et donc, lui sur la sienne, et moi, ben, innocemment, quand j'allais jouer, je suivais mes parents, et puis ben, après, mes parents faisaient ce qu'ils avaient à faire, et moi, je continuais ce que je faisais dans ma cour ou sur le petit chemin. Et c'est à ces moments-là que lui trouvait toujours un prétexte pour m'appeler. Et moi, du haut de mes 5 ans, j'ai pas compris, quoi, en fait, et ça a duré jusqu'à temps que je parte au collège, en fait. Ouais.
Et comme beaucoup, beaucoup d'enfants dans ces cas-là, vous n'avez bien sûr pas pu et pas su quoi faire et quoi dire, quoi.
Non, puisque on ne sait pas ce qui nous arrive, en fait, et on ne sait pas mettre des mots sur nos mots, en fait, à nous. Oui. M-A-U-X, bien sûr, je l'entends. Oui. Et j'ai compris ça bien des années plus tard. Ce que je voulais vous dire... J'étais protégée tant que j'étais au collège, bien sûr. Quand je rentrais le week-end, j'étais comme une feuille, j'arrêtais pas de trembler. Quand je faisais mes leçons, normalement, je me rappelle, j'avais de la technologie à l'époque et on avait des dessins à faire à l'encre de Chine. Je n'arrivais jamais à les faire chez moi, jamais.
Vous avez peur qu'ils ressurgissent ?
Exactement. J'ai jamais réussi et j'arrêtais pas de trembler. Alors, maman n'a pas compris. D'ailleurs, mes parents ne se sont jamais doutés de rien, jamais.
Oui, vous m'aviez dit hier que vous ne vouliez surtout pas leur faire du mal, en fait.
Non,
que ça aurait été intolérable pour eux.
C'est-à-dire que mon papa a été malade il y a 2 ans. Il a eu des problèmes cardiaques. Et là-dessus, je ne veux pas lui en parler. J'en ai parlé à ma sœur aînée il y a quelques mois parce qu'elle a une petite fille de 5 ans. Et je pense que c'est pas innocemment que je lui mets les billes.
Bien sûr. Ça vous a ramené à cette période-là ?
Bien évidemment, exactement. Et donc après, moi, quand j'ai eu 14 ans et demi, je tremblais parce que l'été arrivait. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, j'ai eu une chance, en fait, parce que ma sœur aînée a été contactée pour partir faire des saisons sur la côte. Elle n'a pas voulu y aller. Moi, j'avais 14 ans et demi. J'ai dit à maman, j'y vais. Ma maman n'a pas compris, du haut de mes 14 ans et demi, que je partais 2 mois et demi l'été.
Mais pour vous, c'était presque une issue de secours, quoi.
Pour moi, oui, surtout, oui. Pour moi. Ah, oui. Pour moi, c'était un échappatoire. Au moins, j'allais être tranquille, quoi, tout cet été-là. Et en fait, j'ai fait ça tous les étés jusqu'à... Alors, c'est de 74 jusqu'à 79. Et en 76, j'ai rencontré mon ami, qui est aujourd'hui mon mari, bien évidemment, à qui j'ai, dès nos premières rencontres, je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Oui. Il a compris. Il a été très à l'écoute. Il ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il m'a dit quand tu seras prête. Et donc, je suis rentrée chez moi, bien sûr, parce que fallait que je retourne à l'école, mes saisons, voilà. Donc, je suis repartie à l'école, et là, j'étais plus pensionnaire. Je rentrais chez moi tous les soirs, parce que mon école était à côté de chez mes parents.
Et vous aviez encore peur de lui ?
Oui, j'avais encore peur, mais là, j'avais 16 ans, donc. J'avais un peu de recul, mais sans savoir quand même ce qui m'était arrivé quand même.
Est-ce que à ce moment-là, il était dans les parages ? Est-ce qu'il venait dîner, par exemple, avec vos parents ? Est-ce qu'il était
Oui.
Et comment est-ce qu'il se comportait avec vous ? Comme si de rien n'était ?
Exactement, il arrivait, bonjour filleule. Puis moi, je tremblais, je le regardais, je ne disais rien.
Et aucun adulte autour de vous n'a trouvé votre comportement étonnant, s'est posé des questions ?
Non, du tout, parce que, voilà... Non. Et puis moi, j'en veux pas à mes parents parce qu'ils sont loin de se douter de ça.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Ça a dû être un poids énorme à porter pour vous.
Et ça l'est encore aujourd'hui, malgré que cette personne soit décédée. Et le pire pour moi, c'est quand il s'est marié, j'ai reçu une invitation avec donc mon mari aujourd'hui. Et j'ai dit à mon mari, je n'y vais pas. Ma maman m'appelle, elle me dit, alors, est-ce que vous venez ? Je lui dis, non, on n'y va pas, on ne peut pas, on a un contretemps.
Oui, mais elle ne peut pas comprendre si elle n'a pas toutes les cartes en
main. Non, elle ne peut pas comprendre, bien sûr qu'elle ne comprend pas. Puis bon, elle me rappelle, après le mariage, elle me dit, je t'ai commandé une photo de mariée, du marié et de la mariée. Je ne dis rien.
Oui, bien sûr.
Je récupère la photo, arrivée chez moi, je la déchire. Poubelle. Ça, je l'ai dit à ma maman quelques semaines plus tard et elle m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, parce que ça ne m'allait pas. Et elle n'a pas compris, elle n'a pas saisi en fait.
Est-ce que vous, c'était pour vous presque un appel au secours, une façon d'essayer de commencer à lui en parler ?
Ouais, je pense.
Vous auriez aimé qu'elle prenne la perche que vous lui tendiez ?
Ouais, exactement. Mais bon... Je pense que mes parents malgré, ils se sont très bien occupés de nous, une famille nombreuse, comme je vous disais hier soir. Mmh. Chacun, on a eu notre place. Chacun, on a été accueillis.
Aimé.
Oui, oui, aimé, choyé. Mmh. On a toujours eu ce qu'il nous fallait. On a manqué de rien. Je vous dis, on était 8, dont des jumeaux en dernier. Et quand mes petits frères jumeaux sont nés, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Mes 4 sœurs aînées, donc, et moi j'en fais partie, les 4 bien sûr, j'étais en pension quand elles sont nées avec ma grande sœur. Et donc papa a appelé l'école pour nous dire que les bébés étaient nés. Quand nous sommes rentrés le week-end chez mes parents, papa venait nous chercher tous les samedis, et il nous a dit, toutes les 4, je vous emmène avec moi. Elle nous a emmenés voir nos petits frères et ma maman. Mmh. Et on savait, bien sûr, on savait où était maman. Et on savait qu'il y avait un bébé qui était chez les grands Tréma. Et donc, ce qui s'est passé, on est allé voir d'abord celui qui était chez les grands Tréma. Et on nous a proposé, à nous les deux grandes, de pouvoir rentrer voir le bébé au plus près. Et on a refusé parce qu'il n'y avait pas de raison que nous deux puissions y aller et que mes deux autres sœurs ne pouvaient pas.
Oui.
C'était soit nous quatre.
Vous étiez très unis.
Ah oui, on est très unis encore aujourd'hui.
Ça, c'est quand même une sacrée force dans la vie.
Oui, 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 c'est une sacrée force, bien évidemment. Oui. Donc, c'était soit nous quatre, soit rien. Donc, la péricultrice nous a amené le bébé au plus près de nous, mais au travers d'une glace, bien sûr, enfin un plexiglas. Enfin. Oui. C'était un grand dortoir à l'époque où ils étaient tous alignés, il y avait peut-être 50 bébés. Hein. Donc, elle nous l'a approché, on l'a vu. On est resté 20 minutes, une demi-heure à le regarder, chacune à dire ben, à qui ils ressemblaient, enfin voilà.
Mmh. À faire connaissance.
Voilà, exactement. Mais c'est pas facile de faire connaissance d'un bébé au travers, voilà. Mais bon, c'était quand même une approche et un très beau cadeau de mes parents, je trouvais. Parce que c'était quand même dans les années 74-75. Mmh. Ça, on est allé voir maman et puis ben, l'autre bébé qu'elle avait près d'elle. Et en repartant avec papa, il nous a ramené voir notre petit frère. Il était à l'hôpital encore, quoi. Et quand maman est rentrée, elle est rentrée avec un bébé. Parce que l'autre est resté à l'hôpital. On l'a récupéré un mois après.
Oui.
Et puis, ben voilà. Et donc, sauf que cet enfant s'est suicidé il y a 16 ans.
Oui.
Mais ça n'a rien à voir avec sa naissance.
Il n'y avait, pas de séquelles particulières de cette période-là?
Non, du tout, du tout.
D'accord.
Moi, j'ai assisté à des journées, vous savez, sur des collectifs du suicide. Là. Mm. On m'a bien expliqué qu'il y avait des suicides spontanés. Et des suicides, ben, il y avait déjà eu des tentatives. Lui, il n'y a jamais eu de tentative, jamais rien. Donc, c'était un suicide spontané. Pour qui, pourquoi, on n'a jamais su.
Quel âge il avait quand il est parti?
29 ans.
Mmh. Donc, j'imagine que ça a été un tsunami pour toute la famille.
Ah, mais oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait, tout à fait.
Mmh. Et donc, vous avez rajouté ce fardeau-là au fardeau de l'agression sexuelle?
Ah oui, tout à fait. Ça a été... Oui, bien sûr, ça a été fardeau sur fardeau. Et même encore aujourd'hui, moi, je suis malade. Et j'ai l'impression que mon corps réagit tout le temps au deuil de mon enfant, qui n'est pas fait.
Alors, si je me souviens bien, Pascal, vous m'aviez expliqué hier que c'est un enfant qui est né prématurément.
Oui, voilà.
Et qui a vécu 15 jours.
Oui, exactement.
Et ce petit bout est parti au bout de 15 jours, parce que s'il n'a pas réussi à surmonter tout ça, quoi.
Oui, parce qu'il était atteint. L'enfant ne l'a pas su tout de suite, hein, bien sûr. Comme je vous expliquais, il est né donc un mois et demi avant terme, voilà. Il faisait 900 grammes. Bon, mon mari et moi, nous sommes dit, c'est un grand tréma, enfin voilà. Sauf que, comme je disais, j'avais toujours, pendant ma grossesse.
Un pressentiment. Ouais.
Ah, exactement.
Oui, vous me disiez ça hier.
Ouais.
Les mamans souvent savent, hein. C'est irrationnel, mais elles savent.
Oui, c'est l'instinct maternel, mais comme moi, j'avais déjà ressenti ça quand ma maman m'attendait. Je me suis dit, c'est l'instinct de survie, en fait. Et moi, j'ai compris que pour moi, c'était la survie, et pour lui aussi, parce que je le ressentais beaucoup quand je l'attendais, en fait. Je me suis dit, mais c'est un peu moi, ça, quand maman m'attendait, quoi. Et donc, il est né, il a été au CHR chez moi, opéré 3 fois en 72 heures, plus 2 autres fois après. Donc, 5 interventions en à peine une semaine, hein, ce qui est beaucoup pour un petit bout de chou comme ça.
C'était votre premier enfant ?
J'ai fait 2 fausses couches avant.
Oui.
Et puis après, on a eu ce petit bout.
Donc aujourd'hui, vous avez un enfant ?
Aujourd'hui, nous avons 2 autres garçons.
2 autres garçons, d'accord.
Oui, on a 2 autres garçons. Okay. Ça n'a pas été simple.
Mais ils sont là.
Oui, ils sont là. C'était très compliqué parce que tant que je ne savais pas, tant que nous ne savions pas ce qu'avait notre fils aîné, il était hors de question.
Oui, bien sûr, de prendre le risque.
Bien sûr, oui, non.
Ça aurait pu être génétique, ou il aurait pu y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Oui, alors, dans notre malheur, c'est quelque chose quand même à lequel je me raccroche. C'est que quand j'ai rencontré avec mon mari le généticien, nous l'avons rencontré le 31 mars, soit 2 mois et demi après sa naissance. Et donc 2 mois après son départ.
Oui, oui.
Voilà. Et il nous a dit que c'était le syndrome de Waterkle. Alors, il faut savoir que le syndrome de Waterkle, ça veut dire, je ne sais pas si vous le connaissez.
Non, ça, je n'ai pas entendu parler de celui-là.
Alors, Waterkle, en fait, V, ça veut dire... ce sont des multi-malformations, en fait. Leur V, ce sont les vertèbres. A, c'est la non-perforation anale, pardon.
Oui, donc il aurait pas survécu, quoi qu'il arrive. Quoi.
Alors, à côté du Waterkle, il y a le Water, c'est-à-dire, ce n'est pas le Waterkle en totalité, c'est une partie des malformations. Les enfants atteints du Water ont plus de chances de se sortir, enfin d'être sauvés que du Waterkle en fait. Et en plus, moi je suis 32 ans en arrière, et attention, c'est bien ce que je veux dire aux parents qui m'écoutent. Chaque cas est unique. Et ce qu'il faut savoir aussi, le généticien nous l'a bien dit, quand une famille a eu le malheur de vivre un syndrome tel que le Water ou le Waterkle, c'est à récurrence nulle, en fait, pour les grossesses à venir.
D'accord, donc avez pu vous engager dans d'autres grossesses en étant sécurisé là-dessus.
Alors, on a pu, mais quand le généticien nous a dit qu'il y avait une autre famille de ma région qu'il suivait aussi pour le même syndrome, il était en attente de la naissance dans cette famille d'un futur bébé. Et nous étions partis chez mes parents un week-end parce que on allait souvent chez eux pour nous changer les idées. Et puis un dimanche soir, on rentre à la maison. Notre téléphone, il y avait il clignotait parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait appelé. C'est un généticien qui nous appelait le dimanche midi pour nous dire que cette famille, le bébé était arrivé. Il nous donnait le feu vert pour nous, en fait. Alors bon. Il dit feu vert, on réfléchit quand même parce que je ne voudrais pas que des gens pensent ou se disent ce serait un bébé de remplacement. Ça, c'est hors de question. On était très clairs là-dessus tous les deux.
Oui.
Parce que nous, on voulait un enfant, mais pas un enfant de remplacement.
C'est une autre histoire avec un autre enfant.
C'était une autre histoire, oui. C'est ce que je veux dire. Parce que quand j'étais enceinte, donc en août 1987, donc, ça fait que j'étais enceinte 2 fois la même année. Et ça a été très dur parce que j'étais hospitalisée 4 mois. Et parce que j'ai eu des problèmes, j'ai fait une phlébite en fait. Bon, ma foi, je suis restée 4 mois. Et quand après, comme notre fils, c'est celui-là, le deuxième, parce que je lui disais bien, pendant que je l'attendais, le deuxième, je lui disais, avant que j'accouche, je lui expliquais qu'il n'était pas l'aîné. Parce qu'attention, ça aussi, la place, faut bien...
Vous êtes en train de me dire, vous lui avez parlé quand il était dans votre ventre, déjà.
Exactement.
Ça, c'est très important. C'est très bien d'avoir fait ça. Vous savez que l'enfant reçoit absolument toutes les émotions de la maman.
Bien sûr, et puis... fallait aussi que je lui parle, que je lui dise les choses. Bien sûr, je sais qu'il ne comprend pas tout. Enfin, bon, il ressent de toute façon des choses.
Exactement,
ça, c'est clair.
Oui, oui.
Donc, je lui ai dit, mais j'ai eu la chance d'être accompagnée de la naissance du bébé que j'ai perdu jusqu'à l'accouchement du deuxième garçon que l'on a aujourd'hui. Donc, de l'enfant numéro 3.
Oui.
Nous avons été accompagnés de la mi-janvier 87 à fin décembre 91. Et après, j'ai toujours été accompagnée par un psychiatre.
Accompagnée, c'est-à-dire par qui ?
Par un psychiatre et un psychologue de maternité.
D'accord. Parce que hier, quand vous avez mentionné cet enfant qui n'est pas resté, vous étiez quand même extrêmement émue, encore avec des larmes qui coulaient.
Oui.
Et vous me disiez que ce deuil n'est pas fait.
Non, ce deuil n'est pas fait parce que c'est tout là la complication en fait. Ce deuil n'est pas fait parce que nous n'avons pas vu cet enfant mort. Ça aujourd'hui, ce serait à refaire, mais bon, c'est facile de dire si c'était à refaire, bien sûr. Mais ça nous a été interdit en fait de le voir.
Alors, est-ce que je peux vous suggérer quelque chose, Pascal ?
Oui.
Puisque vous avez pu parler à ce deuxième garçon qui est arrivé dans votre ventre, de la même manière, si vous pouvez, à un moment donné, vous isoler, aller dans une forêt, aller dans un jardin, quelque part où vous êtes seul, prendre peut-être un petit galet sur lequel vous écrivez le prénom de ce premier enfant, et prendre le temps de vous connecter mentalement à lui, de fermer les yeux, d'imaginer le moment où il est parti, de rester mentalement avec lui, de lui parler. Je sais qu'hier, vous avez mentionné une culpabilité aussi.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à porter.
Oui, parce que j'ai tellement eu le corps abîmé de 5 ans à 11 ans que je me suis dit...
Vous faites le lien avec ça.
Non, j'ai fait le lien, exactement.
Donc vraiment, si vous le pouvez, vous savez, les actes symboliques sont importants.
Oui.
Prenez un moment, vraiment un moment où vous vous sentez capable de le faire, un moment où vous êtes plus en paix. Vous vous isolez. Vous
mais
prenez.
Je peux pas.
Pourquoi vous ne
je
pouvez pas?
Parce que je suis malade. Et là, j'ai 4 interventions chirurgicales qui m'attendent. J'ai l'impression que mon corps craque de partout. En fait.
Oui. Alors peut-être pouvez-vous le faire quand même dans votre lit. C'est important ce moment-là. Un moment, vous comprenez ce que je veux vous dire ?
Oui.
Un moment de connexion. Que ce soit une connexion spirituelle, une connexion avec le cœur, une connexion d'amour avec cet enfant-là. Lui parler.
Ah mais je lui parle toujours.
Peut-être lui demander pardon parce qu'il y a cette culpabilité qui vous ronge. Et le laisser repartir dans la lumière. Accepter ce qui s'est passé et qu'il accepte aussi... que vous continuiez votre vie sans lui.
Moi, je ne peux pas le laisser partir.
Ah, mais il est là, le lien de douleur. Rompre ce lien de douleur et de larmes pour installer simplement un lien d'amour.
Mais j'ai peur, c'est ce que j'expliquais à mon psychiatre et à mon psychologue, que je vois toujours, voilà. Parce que, en fait, quand ça nous a été interdit, les personnes qui nous l'ont interdit, c'était mes beaux-parents, ils sont décédés il y a peu. Et en fait, notre fils est dans le même caveau. Et en fait, quand nous avons enterré la grand-mère, j'ai dit à mon mari, mais je lui ai dit, en fait, il est où le cercueil du bébé, quoi? Et en fait, j'ai trouvé ça scandaleux que les fossoyeurs avaient mis le cercueil dans un camion parmi des grabats. Ça, ça a été un choc terrible.
C'est pour ça que je vous conseille, Pascal, de prendre un moment pour vous connecter vraiment à cet enfant et pour ne garder que de l'amour, que de la lumière et de l'amour entre lui et vous.
Essayez
de prendre
peur
de la distance. Mais il ne s'agit surtout pas de l'oublier. Il s'agit de couper un lien de larmes et un lien de douleur, un lien de culpabilité, des images qui sont douloureuses pour ne garder que l'amour entre lui et vous. Quelque chose de plus lumineux.
Poser la question, est-ce que le MDR, parce que là j'ai fait de la sophrologie, de la...
C'est bien, mais ça ne me paraît pas assez dans votre cas, la sophrologie, c'est un peu léger.
Alors, L'hypnose, j'en ai pas fait encore.
L'hypnose pourrait vous faire du bien, notamment pour ce lien avec ce bébé. Le MDR pour travailler sur le traumatisme du viol, ça c'est certain.
Voilà, ouais.
Quelles sont les interventions que vous allez devoir subir là bientôt?
Alors, j'ai une intervention en avril ou début mai. C'est un neurostimulateur à changer de place. Mmh. Après, j'ai deux grosses interventions de... Comment on appelle ça de prothèses de genoux.
D'accord.
Parce que j'en ai déjà eu deux prothèses totales, deux hanches, deux posées. En fait, j'ai plus de cartilage nulle part. Donc, je suis un peu comme une marionnette, en fait.
Mais a priori, ce sont des opérations qui vont bien se passer, il n'y a pas de raison.
Bah, ma première hanche, j'ai failli y passer. Mais quand notre deuxième fils avait 3 ans, j'ai fait un cancer de l'utérus. J'ai été très malade. J'ai subi 7 interventions chirurgicales, là aussi. Mmh. Une chance, c'était le gynécologue qui m'a suivi pendant ma grossesse de 87, là, de fin 86-87. Et lui, connaissant l'histoire, mais... L'histoire du viol, il l'a connue il n'y a pas très longtemps, en fait. Et il m'a conseillé qu'à toutes les interventions, il fallait que je le dise, en fait.
Oui, je pense qu'il y a encore, un gros travail à faire avec votre psy.
Ah oui, ça, j'en suis consciente.
Il y a un message qui vient d'arriver pour vous, Pascal. C'est Luc qui dit « Bonsoir, Pascal. J'ai beaucoup de peine pour votre histoire et votre souffrance. Vous pouvez être fière de votre courage. »
Merci, c'est gentil. Je sais que j'ai une chance. C'est la chance d'avoir mon mari à côté de moi depuis 43 ans.
Et vos enfants?
Et mes deux filles, c'est clair. Mes deux belles filles.
C'est pour eux qu'il faut continuer, qu'il faut vous battre.
Oui, je sais.
Il y a encore beaucoup de moments de bonheur à vivre avec eux, à partager avec eux.
Oui, mais ce qu'il y a, quand on est dans la joie, là, je l'oublie, en fait. Là, je n'ai pas à côté de moi. Il n'est pas là. Je sais faire la part des choses là-dessus, qu'en fait, en traite, on a fêté Noël, là, ce bébé n'était pas là, comme quoi c'est curieux, mais le lendemain, je rentre dans une extrême culpabilité, parce que je me dis, c'est pas normal de t'avoir laissé, voilà.
Ouais. Vous continuez, vous m'avez dit, à voir votre psy, là, en ce moment.
Oui, voilà.
À quel rythme vous voyez?
Alors, je le vois tous les 15 jours, 10 jours, tous les 2 fois par mois, 3 fois, tout dépend. Okay. Ça, c'est depuis peu, en fait.
Surtout continuer, Pascal, parce qu'il y a vraiment encore un travail à faire.
Oui, et puis là, il va partir en retraite, c'est ce qu'il m'a dit, parce que c'est même depuis le début, de toute façon. Parce que j'ai avancé quand même sur certaines choses, ça je sais, mais bon.
Il vous conseillera probablement quelqu'un qui va le remplacer.
Exactement. Oui, c'est ce qu'il m'a, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a déjà parlé de l'EMDR et de l'hypnose.
Très bien.
Mais il ne veut pas me confier non plus, enfin m'envoyer n'importe où.
Il a bien raison.
Vers n'importe qui, enfin n'importe qui, je m'entends bien.
Non, non, mais il a parfaitement raison, c'est extrêmement important ça, bien sûr.
Il m'a dit, quitte à aller sur Paris, voilà, ou sur une autre ville en tout cas... Malgré que je sois dans une grande ville, hein, voilà. Et comment je veux dire
Oui, je vous disais que vous avez un chemin à continuer avec un thérapeute, que ce soit celui-là ou celui qui va le remplacer.
Oui, ça je suis consciente.
Il y a encore un chemin de libération, le libération à trouver pour vous autoriser à être heureuse. Parce que le vrai problème, il est là, c'est qu'à cause de ce type qui a saccagé votre vie, vous ne vous autorisez pas à être heureuse. Vous culpabilisez quand ça va bien, vous pensez tout le temps à cet enfant.
Oui, parce que ben, je me dis, il m'a tellement pourri mon enfance que je me demande si ça n'a pas abîmé les naissances, en fait, de ce bébé.
Ça vous a abîmé, ça c'est certain?
Ah bon, oui, ça c'est clair. Ouais. Mm-hmm.
Et si ça ne va pas assez vite, effectivement, avec une psychothérapie classique, pensez vraiment à l'EMDR pour ce traumatisme-là. C'est quelque chose qui peut vous donner un élan pour avancer plus vite dans cette libération-là.
Oui, oui. Depuis que j'avais entendu que vous le proposiez à d'autres personnes...
Vous êtes renseignée un petit peu?
Non, mais j'attendais de vous appeler. Oui. Il y a longtemps que j'y pense. Il fallait vraiment aussi que je sois prête, que je ne peux pas appeler non plus à n'importe quel moment. Mm-hmm. Pas avec des traumatismes pareils, en tout cas. Bon, il y a encore quatre traumatismes, mais quand il y a trop de choses comme chez moi, c'est pas possible. Je fais de l'acupuncture aussi. J'ai la chance d'avoir rencontré un acupuncteur l'année dernière.
Mmh. Ça vous fait du bien ?
Ça m'a fait du bien sur certaines choses, alors que je n'y croyais pas, je vous avoue.
Parce que j'avais des c'est comme pour tout, quand les gens me disent « j'y crois pas », essayez. Vous êtes la personne qui sait le mieux ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas.
Mmh. Ah oui, mais bien évidemment, mais bon, là-dessus, c'est très clair dans mon esprit que si ça ne va pas, je change. Ben voilà. C'est très clair.
Ça, c'est simple.
C'est très clair.
Quelle que soit la thérapie, quel que soit le thérapeute d'ailleurs,
oui,
c'est à chacun d'entre nous de décider en fonction de ce qui se passe, des résultats tout simplement.
Ah, de toute façon, moi j'ai toujours décidé pour moi et c'est pour ça que j'en ai voulu au premier médecin traitant quand je suis arrivée sur cette région où je suis là actuellement, qu'il ne m'écoutait pas quand je lui disais que quand je portais l'enfant, que ça n'allait pas, qu'il me disait « mais si, j'ai fait 7 échographies et j'avais raison ». Et donc là-dessus, j'étais très en colère. J'ai été 4 jours sans me lever à la maternité. Par contre, ce qui a été chouette là-dessus, j'étais dans une petite structure de maternité et mon mari a dormi près de moi les 15 jours. Ça a été génial. Et après, pour les naissances à venir, ça a été pareil, on a été bien accueillis, on a
puis
été bien entourés.
Puis vous avez cette chance d'avoir un mari formidable qui vous aime et qui est là.
Ah oui, oui, ça là-dessus, je n'ai aucun doute là-dessus, non. Puis on a un couple, enfin, une base qui est très solide.
Oui. Pascal, j'aimerais beaucoup vous tenir par la main et rester avec vous toute la soirée, mais j'ai beaucoup d'appels ce soir.
Je vous en prie.
Je voudrais juste vous insuffler le plus possible d'une énergie positive, vous serrer dans mes bras, vous souhaiter le meilleur. Tenez bon pour ces interventions, continuez ce chemin avec différents thérapeutes.
Oui, il n'y a pas de souci.
Autorisez-vous à être heureuse, à profiter de votre mari et de vos enfants.
Oui, je fais ça pour eux, il n'y a pas de souci. Je suis là pour eux, nous sommes là tous les deux pour eux, ils le savent.
Et ce sale type qui vous a fait, ce sale type qui vous a sali quand vous étiez petite, lui, il n'est plus là.
Non, il n'est plus là.
C'est ça,
le plus important. Il ne voit plus de mal.
Vous êtes là. Alors, prenez votre place et soyez heureuse.
Je vous remercie, Sabine. S'il y a des personnes qui souhaitent mon téléphone pour ce qui est justement du syndrome de Vater, là, parce que je sais qu'il y en a, et
d'accord.
Vous pouvez le donner, il n'y a aucun souci.
Ok, le message est passé. Si on a des gens qui souhaitent entrer en contact avec vous,
voilà.
On vous le transmettra. Merci, Pascal.
Merci, Sabine, et puis merci à vos petites mains.
Ah, dernier petit message qui m'arrive à l'instant de Janine. Quel témoignage poignant votre petit ange veille sur vous.
Merci.
Je vous embrasse très très fort, Pascal.
Merci Sabine, moi aussi
merci
je vous embrasse et je vous remercie et que cette belle émission continue encore.
Merci, à vous, au revoir.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et vous êtes très nombreux à nous envoyer des SMS de soutien pour Pascal et je vous en remercie. C'est ça aussi la solidarité sur cette libre antenne. Et c'est maintenant Elisabeth que j'accueille. Bonsoir à vous Elisabeth.
Bonsoir Sabine, je suis très, très contente de vous entendre. J'espère que vous allez me donner quelques conseils pour mes petits-enfants.
Je vais faire de mon mieux, je vous écoute.
Alors, c'est simple. Non, c'est pas simple. Bon, alors, ma fille est divorcée. Bon, 2 enfants, 13-14 ans. Bon, aucun problème avec le papa. Ils s'organisent très bien. Elle vivait des grands week-ends avec un monsieur qui travaillait à 400 kilomètres. Donc, il venait des grands week-ends parce qu'il avait des capacités pour travailler à la maison. Et depuis, ils vivaient comme ça depuis 3-4 ans. Bon, les vacances ensemble et tout, et très appréciés, entre autres, par les enfants.
Donc jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Tout va pour le mieux, sauf qu'en janvier, ma fille découvre qu'il vient moins et qu'il a probablement une nouvelle amie, enfin quelqu'un, voilà, qu'il retient. Et donc, il vient de moins en moins. Et donc, pour ma fille, qui, comme c'était, entre guillemets, l'homme de sa vie, il n'était pas question, parce qu'elle a pensé tout de suite qu'il voulait organiser sa vie, un pied à droite, l'autre pied à gauche.
Mais quand vous dites, elle suppose, elle, c'était juste une peur ou elle avait des je
sais pas, des antennes. Alors, les preuves, elle lui a demandé, il n'a jamais dit non. Il n'a jamais dit oui, mais il n'a jamais dit non.
Ouais.
Et si vous voulez, il est devenu très nerveux, très bon, très nerveux, pas facile à vivre et tout et tout. Et donc, elle lui a posé plusieurs fois la question. Il lui a dit, oh, ben, j'ai besoin d'être seul. Bon, tout d'un coup, un besoin d'être seul. Bon. Et en fin de compte, il a fini par lui dire. Et à ce moment-là, ma fille lui a dit, bon, avec moi, c'est terminé, même si elle y tenait beaucoup, hein, parce que...
Il lui a dit quoi, pour être clair? Il lui a dit qu'il y avait vraiment quelqu'un d'autre?
Oui.
Et que c'était sérieux?
Oui, oui. Ouais. Enfin, sérieux. L'expression sérieux, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il n'avait pas l'intention de la quitter. Oui. Pendant 5-6 semaines, elle lui a laissé le temps de réflexion. Elle s'est dit, bon, peut-être que... Bon. Et en fait, il n'a pas changé d'objectif. C'est-à-dire, il avait l'intention, en fin de compte, d'avoir une liaison avec les deux.
Oui, la bigamie lui aurait bien plu, quoi.
Voilà. Ouais. Comme il disait, j'aurais bien aimé vivre dans des siècles précédents, parce que c'est vrai que c'est certains, enfin, il concluait pas, c'est moi qui conclue en disant, parce que des messieurs pouvaient se permettre d'avoir la bonne et la fin, voilà. Ouais. Et donc, ma fille qui est droite dans tout ce domaine-là, elle a dit non, bon, ben, on termine là, même si ça lui a crevé le cœur. J'avais beaucoup au téléphone, en larmes, bon. Et je lui dis, bon, ben, c'est peut-être mieux que ce soit aujourd'hui que dans quelques années, parce que bon, le temps passant, on s'attache beaucoup. Enfin, ça faisait 3-4 ans, hein, ils étaient ensemble. Et puis, il y avait une histoire de voiture, c'est-à-dire, elle avait. Monsieur aimait les belles voitures. Enfin bon, il avait un problème avec sa banque. Il gagne beaucoup d'argent, ce monsieur. Mmh. Mais il en dépense beaucoup aussi. Et donc, c'est ma fille qui a fait l'emprunt pour cette fameuse voiture, quelque chose comme 50 à 60 000 euros. Hein. C'est pas une petite voiture.
Ah oui, c'est pas rien. Hein.
C'est pas rien.
Donc, c'est lui qui gagne beaucoup d'argent, mais c'est votre fille qui fait l'emprunt.
Voilà, parce que bon, il avait problème avec sa banque. Enfin bon, il l'a, je dirais, entubé, c'est vulgaire, mais je crois que c'est ça. Et donc, elle amoureuse, bon, elle a pris le crédit, bien sûr, à son nom. Donc, la voiture a été mise à son nom, et la facture à son nom. Alors, elle a dit, cette voiture était donc chez elle, parce qu'il ne s'en servait pas. La semaine, il s'en servait le week-end, lui, mais elle ne s'en servait pas, là, sa voiture, bon. Alors, elle a dit, bon, ben, je vais vendre la voiture, parce que comme d'abord le crédit est à son nom, elle...
Oui, elle rembourse le crédit avec la vente, ouais, c'est logique.
Exactement. Et alors, c'est là qu'il a explosé, mais plus qu'explosé, hein, des menaces terribles. À tout niveau, menaces de mort, menaces, enfin, multiples et variées, la nuit, le jour, enfin bon, jusqu'au moment où je lui ai dit, parce qu'il téléphonait 50 ou 60 fois par jour.
Elle a porté plainte?
Alors, elle a commencé il y a à peu près 10 jours, elle est allée au commissariat, qui lui a dit, bah, écoutez, vous lui faites simplement un message en lui disant que vous allez porter plainte s'il poursuit. Mm-hmm. Par contre, vous ne répondez plus à rien. Et s'il ne s'arrête pas, vous revenez à ce moment-là, je l'appellerai. Donc, ça s'est passé comme ça, le policier l'a appelé, ce qui n'a fait aucun effet. Et ensuite, donc elle irait, demain, il lui a dit, bon, vous comptez quelques jours, et si ça poursuit, vous venez porter plainte. Donc elle va venir, elle va y aller demain.
Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas bloqué son numéro sur le téléphone?
Ah ben bah parce qu'il faut des preuves.
Non, non, sur son téléphone à elle, elle peut bloquer son numéro à lui pour qu'il puisse plus la joindre.
Oui, mais comme, si vous voulez, comment dire, elle ne répond pas. Mais elle, si vous voulez, il lui fait des menaces par téléphone. Il lui fait
elle
des
veut
menaces.
Garder, elle veut garder ça comme preuve.
SMS, bah bien sûr, ah, oui, des SMS. C'est vrai qu'au départ, elle avait pensé tout couper, rejeter ses.
Oui.
Mais si vous voulez, après, elle n'allait pas savoir si par hasard il débarquait vers chez elle.
Oui, elle veut garder un œil sur lui, quoi.
Oui, oui, oui. Et okay. Le policier lui a dit de bien se méfier. De beaucoup se méfier parce que ces menaces, il y avait menaces de mort. Enfin bon, il lui a dit d'appeler tout de suite s'il le voit, si elle le voyait dans le quartier. Parce qu'il a dit il n'y a aucune raison qu'il soit vers chez vous, étant donné qu'il habite loin, quoi. Et par contre, c'est par rapport à mes petits-enfants, parce que mes petits-enfants étaient très attachés à lui. Il avait l'art, comment dire, je trouvais ça d'ailleurs formidable parce que il était très chaleureux avec eux, enfin il jouait beaucoup au foot, etc.
Oui, a priori ça partait bien, quoi.
Eh oui, moi j'étais. Et en fait, il s'avère que ça peut être quelqu'un de qui serait très violent, surtout en parole, hein, pour le moment. Enfin, il la menace. Il la menace, dans tous ses messages, il la menace d'arriver, enfin bon, etc. Il la menace tout le temps. Et donc, pour les deux enfants, j'aimerais savoir comment leur dire, parce qu'elle leur a dit, oh ben, il est malade. Mais il est malade, c'est... Alors, je me demande s'ils ne devraient pas leur dire directement.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de gants à prendre, dans le sens où ce n'est pas leur père, déjà. Pourquoi est-ce qu'elle ne leur dit pas la vérité? Vous m'avez dit qu'ils ont 13 et 14 ans, ça veut dire qu'ils sont quand même en âge de comprendre.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'elle ne leur dit pas tout simplement la vérité?
La vérité, c'est-à-dire qu'il est violent? Qu'il la menace?
Exactement, je pense qu'elle peut leur expliquer ce qui se passe avec le déclencheur, le facteur déclenchant, cette sombre histoire de voiture. Et sans rentrer dans des détails un peu sordides, mais qu'elle dise qu'il est devenu menaçant, qu'il est devenu violent. Et il faut les prévenir absolument,
oui, mais...
ces deux enfants-là, c'est très important. Imaginez qu'ils se pointent devant leur école ou qu'ils les menacent directement, eux.
Oui, mais alors, moi, il faut quand même que je vous dise qu'il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, la meilleure amie de ma fille a été tuée par son mari. Et les deux enfants ont été... Bon, il a poignardé sa femme, enfin, il s'est tué à la fin, ce qui est pas... Enfin, ce que je trouve très bien, moi. Enfin, bon, c'est mon opinion. Et les deux enfants, il les a poignardés avec des ciseaux. Ils ont survécu, les deux enfants. Ils sont donc élevés par un couple que je connais. Et si vous voulez, ma fille, qui en était très proche de cette jeune femme, et puis même du mari, hein, ils en ont parlé devant les enfants qui ont dû entendre, puis qui ont vu la souffrance de leur maman, enfin tout ce qui était autour. Et donc, si vous voulez, ce monsieur qu'elle a fréquenté jusqu'à maintenant, il fait des sous-entendus du genre...
Elisabeth, pardonnez-moi, on va devoir faire une pause de temps des infos.
Oui.
Vous ne quittez pas,
d'accord.
Vous ne bougez pas, je vous récupère dans un instant.
Merci. Je vous remercie.
Merci à vous, à tout de suite.
À tout à l'heure.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Et c'est Sophie Tussaud qu'on retrouve pour un nouveau point sur l'info. Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la victoire du PSG sur l'OM. Le gouvernement va apporter des réponses après les violences à Paris. Puis l'opposition tire à boulets rouges sur l'exécutif.
Europe 1.
C'était un classico mouvementé, tant dans les tribunes, vide côté supporters parisiens en début de match, que du côté sportif. Et finalement, le PSG l'emporte sur Marseille. 3-1, Jean-François Pérez.
Et cette victoire, les Parisiens la doivent avant tout à leur Argentin. Entre elles, Di Maria, c'est lui qui a débloqué la situation alors que le score était de 1-1. Mbappé avait ouvert la marque côté parisien juste avant la mi-temps. Valère Saint-Germain, pensait-on même, du côté de Marseille, avait égalisé juste après la pause. Et puis donc Di Maria qui se joue de la défense marseillaise à la 56e minute, puis d'un coup franc extraordinaire face à un gardien de l'Olympique de Marseille qui s'appelait alors Johan Pelé, puisque Steve Mandanda a été exclu juste avant pour une faute de main en dehors de la surface de réparation. Magnifique coup franc donc de Di Maria, 3 buts à 1, le PSG qui gère la fin de match sans problème, si ce n'est un pénalty de Kylian Mbappé qui a été repoussé par le gardien marseillais pour éviter une correction encore plus lourde. Le Paris Saint-Germain qui s'est réconcilié avec son public ce soir, très en colère au début du match, mais qui chantait et qui applaudissait à la fin. Le grand pardon, en quelque sorte, sur le dos du meilleur ennemi du Paris Saint-Germain, des Marseillais qui se retrouvent à 30 points du Paris Saint-Germain au classement. C'est absolument énorme, incroyable, sans doute du jamais vu. Le PSG premier donc avec 77 points et qui sera évidemment champion de France dans quelques semaines.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Autre résultat de cette 29e journée de Ligue 1, la victoire de Lyon sur Montpellier, 3 buts à 2. Reims-Nantes 1-0 et puis match nul 1 partout entre Bordeaux et Rennes. Le gouvernement est prêt à tirer les conséquences des violences sur les Champs-Élysées. Il admet des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité mis en place samedi à Paris. Édouard Philippe fera donc demain à Emmanuel Macron des propositions d'adaptation du maintien de l'ordre. C'est ce qui est ressorti de la réunion du chef du gouvernement avec les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et de la Justice Nicole Belloubet ainsi que du secrétaire d'État Laurent Nounès. Le gouvernement qui a été attaqué par l'opposition au lendemain des violences à Paris, il dénonce un laxisme autoritaire. Écoutez, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, il était l'invité ce dimanche matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui ne fait pas son travail. Ça fait 18 semaines, ça fait pas 2 jours qu'on se retrouve avec des manifestations violentes. On a le sentiment d'un pouvoir impuissant alors qu'il a face à lui 1000 casseurs. Il y a des semaines où ils ont réussi à appréhender le simple manifestant, et en revanche, pour les casseurs, c'est pas possible. Et je vois que chaque semaine, les déclarations se répètent. On a un pouvoir qui dit qu'il sera plus sévère la semaine suivante, mais en réalité, rien ne se passe. Pour ces commerçants, pour tous ces Français qui veulent passer simplement des samedis sans avoir à craindre pour leur sécurité, oui, c'est inquiétant.
Olivier Faure, invité ce matin du grand rendez-vous sur Europe 1. Les Champs-Élysées ont donc été saccagés durant l'acte 18 des Gilets jaunes. José est kiosquier, il a tout perdu. Pour lui, les manifestants et le gouvernement sont autant responsables dans les violences qui se sont déroulées ce samedi.
J'ai perdu mon emploi, mais je suis révolté. Et si ce mouvement permet aux gens de nous foutre au chômage, c'était pas ça la solution normalement du mouvement. C'était pour qu'on puisse avoir du travail, qu'on puisse gagner dignement sa vie, pas pour qu'on refoute les gens encore plus sur la paille, tel que moi, quoi, à 45 ans. C'est super. C'est comme moi, je voudrais bien amener un gilet jaune et qu'il fasse le boulot du kiosquier. Voir ce que c'est que travailler dans un kiosque à journaux. Et de voir ce qu'on gagne comme recette. Ces gens-là, pour moi, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur revendication, entre guillemets, si c'est une revendication. Ils nous défendent, ces gens-là. Ces gens qui se disent gilet jaune, ils nous défendent. Ils ne défendent rien du tout. Ils cautionnent. Comme tout à l'heure, comme un mec qui dit vive les gilets jaunes et qui sont contents de voir ce genre de désolation. Donc c'est bon, à un moment donné, il faut faire le tri là. Il faut que les gilets jaunes se bougent un peu aussi les fesses. Parce qu'ils sont aussi responsables que le gouvernement. Les deux sont responsables.
José Kiosquier sur les Champs-Élysées au micro européen de Romain Noquet. Une adolescente de 17 ans mise en examen pour agression homophobe. Elle avait attaqué avec une bande de jeunes filles vendredi une gendarme et sa compagne à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Les autres filles de cette bande sont toujours recherchées. À l'enquête sur l'attentat contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, la police australienne a perquisitionné des habitations en lien avec l'attaque dans le quartier où l'auteur a vécu. En parallèle, les Néo-Zélandais ont rendu hommage aux 50 victimes ce dimanche. Elles avaient entre 3 et 77 ans. De nombreux habitants ont déposé des fleurs et des mots près des lieux de culte pris pour cible. Premières analyses des boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Elles montrent bien des similarités entre ce crash et celui du Lion Air en octobre dernier. Annonce du gouvernement éthiopien qui ne précise pas quelles sont ces similarités. Le rapport préliminaire sur les causes de l'accident sera rendu dans un mois. En parallèle, Boeing annonce être en train de finaliser un correctif du système anti-décrochage de ses appareils 737 MAX. Ils sont une nouvelle fois descendus dans la rue, les Algériens de France, pour protester contre la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika et le report des élections. Ils ont manifesté aux quatre coins de la France. À Paris, ils étaient 9000 selon la police. Un mot de tennis à 18 ans, la Canadienne Bianca André Andreescu remporte le tournoi d'Indian Wells. Elle a battu en finale l'Allemande Angélique Kerber en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4. La météo. Valérie Darmon, est-ce que le ciel se calme ce lundi ?
Pas encore tout à fait, mais il y a un léger mieux. C'est dans l'Est que le temps sera le plus instable, résidu de la dégradation d'aujourd'hui. Tout au long de la journée, les averses y seront fréquentes. Beaucoup de neige aussi à prévoir sur les reliefs, avec une limite plus neige aux alentours de 500 mètres d'altitude en matinée. En allant vers l'Atlantique, vous aurez davantage d'éclaircies, surtout en fin de journée, grâce au retour de l'anticyclone des Açores, qui se renforce. Mais le risque d'averses n'est pas évacué pour autant. Beau temps retrouvé, en revanche, en Méditerranée, grâce au vent. Les températures poursuivent leur baisse en ce lundi et les maximales oscilleront entre 9 à Rodez ou encore à Saint-Étienne et 17 à Marseille et Montpellier. En région parisienne comme à Bordeaux, il fera 13 demain après-midi.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1, il est minuit passé de 7 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Sur Europe 1, vous êtes les bienvenus sur cette libre antenne. Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à prendre la parole en appelant le 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir. Et vous savez que vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS en faisant le 73921 en commençant bien par le mot nuit. Ou par mail si vous le souhaitez à l'adresse suivante, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Je récapitule les trois chemins qui vous mènent jusqu'à nous. 3921 par téléphone. 739-21 en commençant par le mot nuit pour les SMS et libreantenne@europe1.fr pour les mails.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Elisabeth, vous êtes toujours là ?
Oui, toujours.
Bon, si je récapitule votre histoire, en fait, votre fille, pour l'instant, ne dit pas vraiment la vérité à ses enfants.
Elle a dit simplement qu'elle s'était séparée de ce monsieur et que, parce qu'il avait une nouvelle amie et que, en plus, il était malade. Elle en est au stade où, parce que les enfants disent oui, mais il était sympathique, etc., etc.
Alors, ma question est la suivante, pourquoi est-ce qu'elle ne leur dit pas la vérité?
Eh ben, justement, elle, non. Alors voilà. Donc, je vous parlais de la mort de son amie d'enfance, dont elle était très proche, qui avait été assassinée par son mari. Et la petite, qui à l'époque devait avoir 7-8 ans, avait entendu parler de cet assassinat. Et elle craignait que sa maman meure. Bon, il y avait pas du, elle avait aucun risque du côté de du papa, mais elle a eu quand même des angoisses. Donc la maman l'avait emmenée consulter, elle s'était passée. Alors, ce qu'elle craint, si elle dit, écoutez, il faut qu'on fasse attention parce que il peut arriver, on ne sait jamais.
D'accord, je comprends, elle a peur de reproduire ça.
De reproduire cette angoisse. Alors, elle leur a pas parlé du danger. Voilà.
Alors, ce qui m'ennuie un petit peu dans l'histoire, c'est que je pense que c'est pas à vous de le faire, sans son accord à elle.
Moi, je vais rien faire.
Malheureusement, vous ne pouvez pas, avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas vous substituer à son rôle à elle. Maintenant, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de lui expliquer que les enfants et les ados ressentent absolument tout, et que quand on ne leur dit pas les choses, c'est encore pire, parce qu'ils se font des scénarios. Ils doivent évidemment sentir l'angoisse de leur maman, l'inquiétude. Elle doit être palpable à la maison. Ils doivent entendre des choses. Vous savez, les ados entendent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Ils voient passer des mails, ils voient passer des SMS, ils fouillent un petit peu dans les affaires. Ils peuvent se rendre compte de certaines choses et le fait qu'elles n'en parlent pas, ça peut être encore peut-être plus angoissant que de dire les choses sans dramatiser, de dire les choses simplement. Voilà, il déraille en ce moment, il nous menace, soyons vigilants, sans dramatiser les choses, vous voyez.
Oui.
Mais qu'elles comprennent bien que ne rien dire, c'est la porte ouverte à des tas de fantasmes qui peuvent être encore plus angoissants pour les ados.
Oui, c'est possible. Et, c'est-à-dire qu'ils ont dû l'avoir pleuré au début.
Mais évidemment, au début, de toute façon, comment voulez-vous vivre avec une maman et ne pas percevoir que ça ne va pas, qu'il y a un truc qui déraille?
Et au départ, je pense qu'ils ont perçu tout à fait la douleur de la perte de quelqu'un. Et mais la suite, bon, c'est comme elle me dit, j'étais malheureuse parce que bon, je perdais l'homme de ma vie. Mais maintenant, elle est arrivée à le détester tellement ces violences qu'il lui envoie comme. C'est terrible. Alors, elle me dit, quelque part, ça arrange ma douleur du dépit amoureux, si on peut appeler ça un dépit amoureux.
Ah bah, ça va l'aider à faire son deuil rapidement, parce qu'elle n'a aucun regret de ne pas être restée avec quelqu'un comme lui. Et pour en revenir aux enfants, et on va s'arrêter là, Elisabeth, si vous le permettez, parce que j'ai beaucoup de monde ce soir. Pour en revenir aux enfants, qu'elle n'imagine pas une seule seconde qu'elle peut cacher ça. C'est pas possible. On peut pas mentir par omission à des enfants ou des ados, c'est pas possible. Ils le voient, ils le sentent, ils entendent des choses, ils vont percevoir des choses, et moins elle va parler, plus ils vont s'angoisser. Le pire dans une relation, ce sont les non-dits avec nos enfants. Il faut choisir ses mots, mais il faut mettre des mots sur ce qui se passe, c'est essentiel.
D'accord, je vais lui dire ça.
C'est vraiment important.
À la maman.
Et votre rôle à vous, c'est effectivement de la coacher dans cette passe difficile, d'être de bons conseils pour elle.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Ça va être utile.
Merci pour votre appel, Elisabeth. Je vous embrasse.
Et bonne soirée.
Merci.
Merci encore. Merci.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Et c'est la voix de Florence que nous allons entendre maintenant. Bonsoir Florence.
Bonsoir Sabine.
Vous avez une radio allumée derrière?
Ça y est, j'ai éteint.
Merci beaucoup, sinon ça résonne un petit peu. Alors bienvenue sur cette libre antenne Florence.
Merci.
De quoi est-ce que vous avez envie de parler?
Alors je ne sais pas trop par où commencer parce que je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi, de ce qui me touche et de ma vie. Donc, je vis en province et ma fille, qui a 19 ans, vit à Paris puisqu'elle poursuit ses études à Paris.
Oui. Donc, études de quoi?
Art plastique.
Oui.
Donc, c'était une élève brillante. Qui a eu son bac mention très bien, qui a eu des résultats positifs à tous les choix qu'elle avait manifestés sur Parcoursup. Et donc, le premier semestre s'est passé avec de bons résultats, de très bons résultats même. Et là, je la sens de plus en plus, je dirais, un peu à la dérive, un peu à perdre pied. Donc, comment ça se manifeste par des doutes sur elle. Alors, elle a à la fois effectivement une grande maturité, et d'un autre côté une grande sensibilité.
Il y aurait un décalage entre son niveau intellectuel et son âge intellectuel et son âge émotionnel peut-être.
Oui, je pense. Je pense.
Quelquefois, les enfants qui sont très brillants intellectuellement ont une sensibilité accrue et une évolution émotionnelle qui est un petit peu différente que de l'évolution intellectuelle.
Oui, non, c'est. Je pense que ça peut être effectivement une bonne. Ça correspond assez bien à ce que je pense d'elle, mais moi.
Où est-ce qu'elle vit à Paris? Comment est-ce qu'elle vit alors à Paris?
Alors, elle vit dans le 20e, elle a un petit studio dans une résidence d'étudiants.
Donc, elle est livrée elle-même et quand même dans un cadre.
Oui. Oui, j'ai préféré qu'elle soit dans une résidence étudiant, en me disant que peut-être elle pouvait rencontrer d'autres étudiants. Il y a un gardien, donc il y a une certaine sécurité.
Ce qui pour vous et pour elle est plus rassurant quand même.
Ce qui est plus rassurant. Mais et donc ses études, elle les fait dans le 15e à la Sorbonne.
Oui.
Donc et alors je l'ai eu au téléphone samedi soir, hier soir, on pleure parce que elle a un petit ami et bon, ça se passe très en dents de scie, en fait. Et donc, je pense que elle aimerait prendre un petit peu de large avec lui, mais elle a tellement peur quand elle rentre chez elle qu'elle a du mal à être seule chez elle. Donc, et quand je dis peur chez elle, elle va retarder l'heure d'aller se coucher, mais jusqu'à 5h, 6h du matin. Et c'est ça tous les soirs.
Et oui, donc elle est en train de se foutre la santé en l'air en plus avec ça.
Voilà, ouais. Absolument. Et donc, là j'en ai parlé à mon médecin traitant pour savoir s'il pouvait m'orienter sur soit un psychiatre, soit un psychologue à Paris.
Ouais.
Donc, visiblement, il n'avait plus de contact parce que il est parti trop longtemps de Paris. Il n'a plus de contact. Et donc, il m'a prescrit pour elle du Lexomil.
Oui, mais ça, c'est un pansement. Ça va calmer, voilà, la conséquence, mais pas la cause.
Absolument. Et en plus, chose que... Ben, à distance, je ne vais pas pouvoir maîtriser. Je ne sais pas comment elle va utiliser, parce que quand elle est dans ses paniques...
Oui,
dans
c'est pas forcément
paniques,
une bonne idée, ça, oui.
Donc, je ne suis même pas allée à la pharmacie avec l'ordonnance. Voilà, en me disant, il faut vraiment que je trouve une autre solution, que quelqu'un la suive de régulièrement... et quelqu'un en qui elle puisse effectivement avoir confiance pour lui parler de tout ce qu'elle ressent, de tout ce qui la touche, de tout ce qui la perturbe, parce que bon, c'est vrai que sans vouloir rentrer dans les détails, parce que chez moi c'est aussi tout coincé, je ne pourrais pas arriver à en parler, mais bon, voilà, ça a été très compliqué avec
son papa.
Avec son papa, dont je me suis séparée il y a 6 ans. Voilà. Donc.
Elle est partie, elle est restée chez vous jusqu'à quel âge, votre fille ?
Ben, jusqu'à la rentrée du mois de septembre.
Et oui, c'est ça. Donc, à mon avis, il y a une partie d'elle qui n'a pas grandi encore. Il y a un lien qui n'a pas été coupé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dès le début de la conversation. Finalement, c'est une maturité intellectuelle surprenante, en tout cas agréable, puisqu'elle est brillante. Mais il y a une maturité émotionnelle qui n'est pas encore là. Et partir de chez maman et se retrouver seule du jour au lendemain, c'est trop compliqué pour elle. Il y a Lily qui nous envoie un petit SMS et qui dit « Pourquoi est-ce qu'elle ne prendrait pas une colocation pour ne plus vivre seule ?»
Mais c'est ce que je voudrais.
Et
c'est
oui,
ce que je voudrais.
Ça me paraît une bonne idée
c'est
aussi.
C'est ce que je voudrais. J'essaye de la pousser, effectivement, en lui disant... dans cette voie-là, de façon à ce que bon, il soit deux ou trois, éventuellement des filles. Hein,
aux filles ou garçons, vous savez, quand ils sont corrects, ça se passe très très bien.
Oui.
Il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Et il y a des groupes qui sont très sympas, il y a des colocs qui se passent très très bien. Mais c'est vrai
que je l'ai eu en...
quand on quitte papa ou maman trop tôt comme ça et qu'on n'est pas prêt, effectivement, je pense qu'elle s'est peut-être, en plus, elle s'est investie avec ce garçon. Elle l'a connu quand, d'ailleurs, ce garçon ?
À la fac.
Juste quand elle a commencé ?
Oui.
Oui, peut-être qu'elle s'est accrochée, je ne dis pas au premier venu, mais pratiquement, pour ne pas être seule.
Ah, mais ça, j'en suis intimement persuadée. Donc, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu quand je suis montée voir ma fille à Paris. On a fêté l'anniversaire de ma fille en début d'année, donc elle est venue... en province, à la maison, donc je lui ai proposé qu'il vienne avec elle, hein, de façon à pouvoir un petit peu plus le connaître et puis voir un peu comment ça fonctionne entre eux. Parce que ce que je décelais un petit peu à distance, c'est je pense que bon, c'est un garçon qui doit avoir des qualités, hein, qui doit être intelligent, qui a des connaissances, mais du coup, c'est il a tendance à la déstabiliser, à la rabaisser, lui dire qu'elle connaît rien, que lui sait, enfin bon, donc voilà.
Mais le problème, c'est qu'elle a peut-être pas pris le temps de rencontrer, d'attendre la bonne rencontre, et qu'elle s'est peut-être un peu précipitée vers quelqu'un pour avoir quelqu'un, justement. Elle, elle revient chez vous à quel rythme ?
Pas très fréquemment. Pas très fréquemment.
Toutes les 6 semaines pour les vacances, non ?
Oui. Ouais, là, de toute façon, là, pour les vacances de février, elle est restée 1 semaine à la maison.
Est-ce que vous pourriez envisager de trouver quelqu'un là où vous êtes qui pourrait l'avoir au moins toutes les 6 semaines ? Si vous avez plus de facilité à trouver quelqu'un auprès de vous ? Je parle d'un thérapeute.
Alors, elle voyait effectivement un médecin, un psychiatre, et elle, à un moment donné, sachant qu'elle partait à Paris, elle a, bon, il y avait le bac aussi, donc elle a un peu arrêté, et je trouve ça dommage.
Alors, je vous parlerai pas forcément d'un psy, sauf s'il y a un vrai problème encore lié à son papa. Mais là, pour le coup, je vous parlerai plutôt d'un coach, vous voyez, quelqu'un qui pourrait la coacher, qui pourrait l'aider, l'aider à faire grandir cette partie d'elle qui est encore pas complètement mature.
Oui.
Oui, je pensais, parce que j'ai pour l'instant, à moins, une fois de plus, à moins qu'il y ait une pathologie, quelque chose de coincé dans la relation avec son papa, mais de ce que j'entends là, elle va plutôt bien, votre fille. Donc la mettre sous l'exomie, lui faire voir un psy, ça me paraît sortir un bazooka pour tuer une mouche, quoi, vous voyez.
Oui, oui.
C'est juste qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas encore complètement mature et c'est normal. Je trouve qu'on en demande beaucoup à nos ados depuis quelques temps. On leur demande de savoir à 16 ans, 17 ans ce qu'ils veulent faire plus tard. Parcoursup, c'est d'une violence inouïe. C'est un parcours qui est extrêmement compliqué, qui demande une rigueur, qui demande de savoir des choses. Quelquefois, on leur demande ce qu'ils veulent faire après. Ils n'en savent rien, pas précisément à ce point-là. Donc je pense qu'elle a brillamment géré tout ça intellectuellement, mais qu'émotionnellement, elle a encore un petit peu besoin qu'on la prenne par la main, quoi. Non. Et je ne suis pas convaincue que c'est en l'assommant avec un Lexomil que ça va l'aider.
Ah, moi, ça fait 3 semaines que j'ai l'ordonnance. Je ne suis pas allée à la pharmacie parce que je trouve que c'est pas une solution
bien sûr.
Qui peut faire évoluer dans le bon sens. Et je n'ai pas du tout envie, en plus, qu'elle en fasse un usage.
Oui, je comprends.
Qu'elle maîtrise pas.
Je comprends qu'en tant que maman, on n'ait pas envie de donner ça à son enfant, laissant seul avec une boîte de comprimés quel qu'il soit. Je pense que tout n'est pas médicamenteux, tout n'est pas psy non plus, et que votre fille, elle aurait certainement besoin d'une coach en qui elle ait confiance, quelqu'un qui vraiment la fasse grandir.
Et moi, j'essaye de la soutenir, mais moi, je n'ai pas refait ma vie. J'ai consacré... tout mon temps, soit mon travail parce que j'ai un travail très prenant,
soit pour elle,
soit pour elle, et je vois que bon ben oui c'était un soutien et fort heureusement que j'étais présente.
Est-ce que vous avez fait un peu le papa et la maman?
Ah ben ça,
ouais, ça le c'est papa, ce que j'entends, c'est ce que j'entends entre les lignes là.
Le papa, il est à vos abonnés absents. J'essaye de le voir de temps en temps pour lui expliquer que sa fille n'est pas bien et qu'il faut faire quelque chose, il faut la soutenir, mais il n'entend rien. Il n'entend rien.
Ouais. Ça non plus, c'est pas très sécurisant pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, de ce côté-là, un appui, un soutien, quelqu'un qui est là pour elle, quoi.
Alors qu'en fait, c'est vrai que moi, j'attendais, je pensais qu'il aurait une réaction par rapport à ce passé, qui lui montre qu'il était là et que, voilà, il allait faire tout ce qu'il fallait pour...
Bon visiblement, il n'était pas là avant, il n'est pas là maintenant, quoi. Ça ne change pas.
Non, ça change pas. Et vous voyez, quand la dernière fois que je suis allée la voir à Paris, on a terminé aux urgences d'un hôpital parisien parce que je ne sais plus ce qu'elle avait cette fois-ci, mais parfois c'est des migraines épouvantables et on finit aux urgences. Là, c'était encore Oui, parce qu'elle avait très très mal, très mal au dos. Et elle revenait de chez moi, donc où elle avait passé plusieurs jours. C'était pour les vacances de Noël, et donc je l'avais conduite chez le médecin qui lui avait prescrit une prise de sang, analyse d'urine,
c'est de l'angoisse,
échographie.
Tout ça. C'est de l'angoisse qui ressort, ça uniquement.
Voilà. Et donc on a fini à 5h du matin à l'hôpital, aux urgences. Et c'est très souvent comme si finalement aussi je sais pas elle avait l'attention et mon attention portée sur elle.
Oui. Alors inconsciemment elle somatise, mais c'est aussi effectivement une manière d'être encore au centre de votre vie, de l'intérêt, bien sûr. C'est pour ça que je vous parle depuis le début de l'aider à grandir. Donc d'un côté, je pense que l'inciter à une colocation, c'est une excellente idée, pour qu'elle s'ouvre au lieu de se refermer.
Mais elle a peur des autres. Elle a peur des autres.
Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que si vous pouvez trouver quelqu'un, un bon coach qui peut l'aider à franchir ce cap, ça s'appelle, en fait, c'est devenir grand, devenir adulte. On manque de rituels et de rites dans notre société pour aider les ados à devenir grands. C'est pas si facile que ça sur le plan émotionnel. Ils ont beau être brillants intellectuellement, ils sont un peu perdus quand on se retrouve d'un seul coup comme ça.
Oui, puis bon, en plus, je veux dire, quand on rentre dans les études supérieures, il n'y a pas la proximité qu'elle pouvait avoir aussi au lycée avec les enseignants. Il y a.
C'est beaucoup plus froid, hein, les rapports, bien sûr.
C'est beaucoup plus froid.
Qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard ?
Eh ben, mais elle n'en sait rien.
Ça aussi, c'est sûr. Elle n'en sait rien. Oui.
Donc. Donc elle est douée en plus, elle est vraiment douée.
Elle est un peu dans le domaine artistique ?
Oui.
Parce que peut-être pourriez-vous l'inciter à s'inscrire dans un cours de théâtre ou de chant, quelque chose qui pourrait lui permettre d'appartenir à un groupe à Paris, de se faire des amis dans un domaine qui lui plaît et de s'ouvrir un peu aux autres. Si elle aime le côté artiste, il peut y avoir des cours de peinture, des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre, vous voyez ? Quelque chose qui pourrait l'intégrer dans des groupes.
Oui.
Parce qu'à cet âge-là, on a besoin de ça. Un groupe identitaire qui lui ressemble, qui lui permettrait de connaître des gens hors école, hors fac, et puis d'avoir une motivation aussi, quelque chose qui puisse la stimuler, l'amuser et la faire grandir avec d'autres. Il y en a à Paris, hein, des choses comme ça.
Oui. Vous voyez, cet après-midi, bon, je l'ai rappelé pour savoir comment elle allait. En lui disant que bon, il fallait absolument que elle creuse un peu l'idée de la colocation, parce que on reste pas avec quelqu'un simplement parce qu'on a peur de dormir ou d'être tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible de se laisser aussi mettre la tête sous l'eau et perdre pied et douter de soi. Cause de quelqu'un qui lui-même est peut-être pas totalement équilibré non plus, qui est comme elle, qui se cherche aussi un peu, qui, je sais pas, je le connais pas suffisamment. Et donc, ce que je lui disais, c'était d'essayer, puisque elle prend des cours, enfin, ses études, c'est art plastique, donc je lui disais d'essayer de trouver peut-être un emploi, quelques heures par semaine, dans un musée, vous savez, pour les audioguides, en lui disant, tu pourras peut-être, tu trouveras d'autres jeunes qui, comme toi, font des études sur Paris, qui, voilà, et tu connaîtras d'autres personnes.
Et qu'est-ce qu'elle répond à ça ?
Donc elle commence à me dire, oui, tu as raison.
Ah, oui, il y a une porte qui s'ouvre. Déjà bien.
Et c'est pareil, je lui dis, tes copines et tes autres copains de fac, tu ne te coupes pas d'eux. C'est pas parce que tu as quelqu'un dans ta vie, tu as un petit copain, que tu te coupes de tes copains et tes copines. C'est, il faut, quand elle vient sur Clermont, je l'encourage toujours à voir ses amis du lycée. Quand, voilà, c'est pareil, c'est ses copains de fac, à un moment donné, enfin j'essaye moi de lui trouver un appartement plus près de sa fac. Et je disais comme ça, entre midi et deux, avec tes copains et tes copines, vous venez manger chez toi, vous repartez en cours après, de façon à avoir un lien social.
Vous savez qu'il y a des sites pour trouver des colocations entre étudiants comme ça aussi.
Je ne savais pas.
Quitte à lui trouver un appartement, au lieu de chercher sur des annonces classiques, vous cherchez sur des sites de colocation.
Oui.
Et il y a des jeunes qui mettent des annonces, qui ont quelqu'un qui s'en va, par exemple, vous savez, qui a terminé un cycle étudiant et qui libère une place, par exemple. Et là, je pense que pour...
Ça va être le moment, en plus.
Exactement. Et pour le coup, je pense que là, c'est vraiment à vous de le faire. J'ai peur que si vous la laissiez toute seule faire ça, elle n'y arrive pas. Elle va laisser traîner, elle ne va pas être forcément motivée. Là, pour le coup, c'est peut-être à vous de mettre un petit coup d'accélérateur en disant, écoute, voilà, je t'ai repéré des annonces. Il y a ça et ça qui est plus près de ton école. Il y a peut-être là un appartement avec une place pour toi. Peut-être la pousser un tout petit peu de ce côté-là.
C'est ce que je fais depuis le mois de septembre, mais sur le site PAP, en fait, hein, c'est des studios.
Oui, c'est ça,
studios,
c'est, voilà. C'est pas réservé aux colocs.
Non, non, non. Mais effectivement, ça c'est une bonne idée.
Il y a plein de sites qui s'occupent de ça. Alors, pardonnez-moi, il y a Hassan qui me laisse un petit mot que je déchiffre en même temps. Avec d'autres étudiants et le CROUS de Paris, on organise des sorties pour les étudiants. Pour les prochains jours, on a des événements prévus, bowling, jeux de société, jeux vidéo. Si vous le souhaitez, on peut vous laisser les coordonnées. Oui, bah écoutez, pourquoi pas, je vous laisserai parler avec Hassan quand on aura terminé. Je pense que quelqu'un lui a laissé un message pour entrer en contact avec vous. C'est le CROUS de Paris qui organise avec des étudiants des sorties, des activités. Pourquoi pas, vous pouvez lui proposer ça aussi. Mais surtout, déjà passer par les bons canaux pour trouver une colocation adéquate. Lui trouver à Paris ou près de chez vous quelqu'un qui la coache un peu, qui met en avant ses qualités, ses capacités, qui peut aussi peut-être lui servir à mieux déterminer quel chemin elle veut prendre. Parce que c'est toujours angoissant quand on ne sait pas ce qu'on veut devenir à cet âge-là. Quelqu'un qui peut lui faire une sorte de bilan de compétences, vous voyez, des choses. Quelqu'un qui soit qui l'accompagne vraiment sur un terrain... là où elle a besoin d'être accompagnée, quoi, voilà, tout simplement. Hein. En dehors de maman, en même temps, ça lui fera du bien.
Oui, oui. Oui, parce que, bon, on sait que on a nos limites. Hein.
Non, puis surtout, il faut couper le cordon pour lui permettre à elle de grandir.
Voilà, c'est ça.
C'est aussi ça, le problème. Une fois de plus...
Et donc, ma question est, je réfléchis en même temps que je vous parle, et vous n'auriez pas la possibilité de me donner finalement des adresses de coach sur Paris, par exemple.
À l'antenne, non. De toute façon, c'est évident que je ne fais pas ce genre de choses à l'antenne. Laissez à ce moment-là votre mail à Hassan pour moi.
Oui.
Donnez-moi quelques infos sur le quartier, surtout l'endroit plus précis où elle se trouve. Et je vais voir si je peux trouver quelqu'un à ce moment-là. Vous proposez plusieurs personnes qui pourraient éventuellement lui convenir. Hein? On fait comme ça?
D'accord.
Alors vous ne raccrochez surtout pas, je vais vous laisser avec Hassan.
Oui.
Qui va vous donner déjà les coordonnées de la personne qui a laissé un message pour vous et qui va prendre votre mail.
D'accord.
Ça marche comme ça?
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Florence.
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir Marie-Christine. Allô, allô? Une fois, deux fois, trois fois, Marie-Christine, vous êtes là? Ah, on a perdu Marie-Christine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause ou on prend quelqu'un d'autre? Où est-ce qu'elle est là, Marie-Christine? Ah, Marie-Hélène maintenant. Marie-Hélène, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah, bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir. Je peux vous demander quel est votre nom parce que je ne sais plus...
Mon prénom, c'est Sabine.
Ah, d'accord. Mais je ne vous connais pas parce que j'ai déjà parlé
à Sophie,
à Caroline.
Ah, c'était il y a longtemps.
Blanche. Oui, il y a longtemps. Et puis aussi
à Sophie.
Je ne sais plus. Non. Ah oui, Sophie Peters, oui. Excusez-moi,
c'est
si je suis
grave.
En direct, il ne faut pas que je bafouille.
C'est pas grave, les présentations sont faites. Marie-Hélène, Sabine, Marie-Hélène, je vous écoute.
Voilà, bonjour. Eh bien, écoutez, je me posais quelques questions sur le fait que depuis presque toujours, je me suis la plupart du temps retrouvée dans une position de victime, alors que j'essaye toujours justement de n'être en conflit avec personne, d'être gentille avec tout le monde. Le rêve de mon enfance et de ma jeunesse, c'était justement de ne pas avoir d'ennemis, de n'être jamais en conflit.
De faire plaisir à tout le monde ?
Voilà, voilà. Mmh. De me couler dans un moule qui ferait que je n'aurais jamais de problème. Et tellement j'ai fait d'efforts dans ce sens que ça a marché quand même pendant longtemps. Mais en même temps, en me faisant avoir des retours de bâton, enfin des choses vraiment assez graves, parce que personne ne mettait de limite avec moi. On me voyait comme quelqu'un avec qui on peut faire n'importe quoi.
Pardonnez-moi Marie-Hélène, mais de ce que j'entends, oui. c'est vous qui ne mettiez pas de limite aux autres.
Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, je pensais toujours, comme moi je ne fais pas n'importe quoi avec les gens, je pensais toujours que les gens s'arrêteraient à un certain stade.
Ah oui, malheureusement les autres ne sont pas comme vous.
Et voilà, et voilà.
Et, oui.
Et en fait, ce qui s'est passé, parce que, bon, j'ai déjà été persécutée par ma mère, qui m'avait exclue entre les quatre enfants. Et en fait, c'est moi qui m'en suis mieux tirée, les quatre enfants.
Pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné comme ça, votre mère ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit comme ça ?
Ah ben écoutez, elle était très secrète au sujet de tout ce qui était personnel. Mmh. Donc, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans sa vie parce que mes grands-mères, mes grands-parents étaient vraiment aimants, en apparence bien, sans problème et tout. Et apparemment, elle n'aurait pas eu une enfance malheureuse. Mais pourquoi c'est moi qu'elle a choisi des quatre enfants pour m'inférioriser, m'exclure ? Ça, c'est assez difficile à analyser parce que quand j'ai... Enfin, là, je parle du début de ma vie, quoi. Mais quand j'ai... là, je parle et puis...
Mais cherchez à comprendre pourquoi votre mère vous s'est comportée comme ça avec vous et pas avec les autres.
Oui, oui. Eh bien, écoutez, je crois, parce que j'ai lu la vie de Françoise Dolto et... Elle a eu des problèmes psychologiques du fait de sa famille. Et en fait, elle disait qu'elle était d'une famille bourgeoise. Et elle disait que très tôt dans sa vie, elle s'était rendue compte des dysfonctionnements de cette famille, que malgré toute la belle couverture sociale, c'était pas normal, le fonctionnement n'était pas normal. Et moi, je crois que je me suis aperçue que, voilà, malgré la belle image sociale et le fait que tout le monde me disait que j'avais de la chance d'avoir des parents aussi bien, je me suis rendu compte que ça dysfonctionnait vraiment.
Mais
à l'intérieur.
Derrière le vernis des apparences, c'était moins joli.
Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Et même si je ne l'ai jamais dit, bien sûr, j'étais terrorisée par ma mère. Je pense qu'elle sentait ce jugement intérieur et que mes frères et sœurs ne s'apercevaient de rien. Et du coup, ils ont eu toutes les faveurs, ils ont eu les flots d'argent et tout. Et moi, très tôt, j'ai dû partir de la maison, m'affronter avec les choses matérielles. Et au bout du compte, je suis celle des quatre enfants qui s'en est le mieux tirée, puisque j'ai deux sœurs qui se sont suicidées, une à 36 ans, l'autre à 50 ans, un frère qui prend des cachets, qui n'a presque jamais travaillé, et voilà, et moi j'ai travaillé jusqu'à maintenant, je travaille un peu encore, et j'aime la vie, mais voilà, ce truc-là de me trouver toujours un bouc émissaire, c'est exactement le mot que je veux employer, ça me fatigue, je voudrais sortir de ce schéma, je ne sais pas comment faire.
Alors il y a deux choses dans votre histoire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le transgénérationnel ?
Ce
dont on hérite de nos générations précédentes, si vous voulez.
Oui, on porte des valises des générations précédentes.
Alors peut-être pas des valises à ce point-là, mais c'est vrai que dans nos gènes, on hérite toujours de l'ADN de nos ancêtres. On a donc déjà dans nos cellules, quand on arrive au monde, une histoire. Et j'ai l'impression, à vous écouter, que dans votre famille, comme vous disiez, il y avait le vernis, la vitrine, mais que derrière, on ne sait pas toujours tout. Peut-être qu'il y a eu des secrets de famille. Peut-être qu'il s'est passé des choses du côté des grands-parents, des arrière-grands-parents.
Ben oui, c'est assez intéressant ce que vous dites. Dans ma famille, c'est sûr que dans ma propre famille, sans aller avant, c'est sûr qu'il y avait des gros secrets de famille, vraiment gros, que j'ai essayé de percer pour mon malheur. Mais dans les ancêtres de ma mère, c'est un peu bizarre parce que je pense que ma grand-mère a dû être une femme peut-être volage, alors que quand je l'ai connue âgée, elle était tout le contraire, et qu'il y a dû avoir quelque chose comme ça. Mais alors bon, vraiment en apparence, ma mère avait l'air d'avoir eu de très bons parents, qui étaient de très bons grands-parents. Alors, pour en être arrivée au fait qu'elle avait cette espèce de... Je pense qu'à l'intérieur d'elle-même, ça ne se voyait pas, parce qu'elle était brillante dans sa profession, intellectuellement et tout. Mais je pense qu'à l'intérieur, elle devait être très déséquilibrée.
Il y a une souffrance quelque part. S'il n'y avait pas eu une souffrance quelconque, elle ne se serait pas comportée comme ça. Ce n'est pas une preuve d'équilibre et de bonheur, ça.
Non, mais...
Donc il y a peut-être quelque chose du côté du transgénérationnel, et si ça vous intéresse de travailler là-dessus, je vous invite à faire ce qu'on appelle une constellation familiale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Ah. Non.
Constellation familiale, c'est une sorte de thérapie de groupe, si vous voulez, où chacun dans le groupe prend symboliquement le rôle de quelqu'un de votre famille.
Un jeu de rôle.
Ça peut être une sorte de jeu de rôle, mais c'est mené par un psychiatre ou un psychologue, donc c'est bien encadré. Et ça permet de faire remonter certaines choses, de faire revivre certaines situations, de prendre conscience de certaines blocages, certaines blessures.
Oh.
Ça fait avancer les choses, croyez-moi.
Ben oui.
C'est assez intéressant.
Parce qu'après, je me suis un peu enfoncée dans la même direction, ayant pris un mari qui était du même type que ma mère, version masculine.
Ben oui, forcément, c'était rassurant, vous connaissiez la manière de fonctionner.
Voilà. Mais figurez-vous que cette manière de fonctionner, qui est très mauvaise pour moi, me joue encore des tours, après si longtemps. Parce que je sens une familiarité avec les pervers, qui sont les personnes les plus nocives possibles pour moi et qu'il faudrait que je fuis, vous comprenez ?
Et oui, mais inconsciemment, ils vous attirent parce qu'une fois de plus, vous êtes quelque part en terre inconnue.
Voilà, exactement. Parce qu'après, mon mari, lui, il m'a fait subir des grosses violences pendant 10 ans. J'ai essayé de le faire soigner, j'ai amené chez des psychiatres. Il a injurié un psychiatre, il voulait plus s'en occuper. Après, on a pris un vieux psychiatre. Mais après, moi, j'avais 3 très jeunes enfants, je tenais plus le coup. Et il a été dire, parce que voilà, on a été enlevé par le juge des enfants, il a été dire au juge des enfants, enfin mes enfants et moi, on a été mis de côté par le juge des enfants, et il a été dire à mes enfants, au juge des enfants, ma femme est folle. Donc,
il y a une expertise. C'est plus facile, comme ça règle le problème.
Voilà. Donc, il y a eu une expertise psychiatrique et manque de chance pour lui. Moi, j'ai eu tout bon et lui, il a eu tout mauvais. Et donc, les enfants m'ont été confiés à moi, les 3. Mais, donc, j'avais le droit pour moi, mais je me suis encore fait baiser, entre guillemets.
Voilà, ce que je voulais vous dire, je vous disais tout à l'heure, il y a 2 axes dans votre histoire là, qui me viennent à l'esprit, qui me sautent aux yeux. Le premier axe, c'est le transgénérationnel. Le deuxième, c'est la blessure que vous rejouez. Et la blessure que vous rejouez, c'est la blessure d'humiliation.
Oui.
Et quand
comment vous expliquez ça ?
Parce que, vous savez, il existe 5 blessures importantes qu'on vit quand on est petit. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et quand on vit la blessure d'injustice, d'humiliation, pardon, et ça semble avoir été le cas, vous avez été humilié par cette mère qui ne vous a pas laissé votre place, en quelque sorte, qui ne vous a pas fait vous sentir importante, aimée, et bien dans l'inconscient, on considère qu'on n'a pas vraiment de valeur, parce qu'on se dit, si j'avais de la valeur, maman m'aurait aimée, maman m'aurait laissé ma place. Et donc, on va inconsciemment rejouer cette scène-là en permanence, et on va se mettre dans des situations où l'autre ne me respecte pas.
Exactement.
Et j'imagine
mais alors,
que vous
à un point terrible, quoi.
Ben oui, parce que vous l'avez réactivé en permanence, cette blessure-là. J'imagine aussi que vous êtes quelqu'un qui est toujours au service des autres, toujours prêt à aider.
Oui, je suis généreuse. Les gens m'aiment bien. Et puis, mais j'attire aussi les jalousies, alors que je ne vois pas pourquoi. Et je n'ai jamais su me défendre. D'abord parce que ça me fatigue de me défendre et puis je sais pas être méchante et puis ça me rend malheureuse d'être méchante.
Quand on subit cette blessure d'humiliation, on n'est pas on se défend pas, on cherche à se faire aimer, au contraire.
Voilà. Et jusqu'à il y a pas longtemps, je voulais que tout le monde m'aime et puis je me suis rendu compte que c'est pas possible. Mais ça m'a aussi
ça,
joué
c'est bien.
Des
c'est déjà un progrès de comprendre que c'est pas possible. C'est déjà grandir, ça c'est bien.
Oui.
Mais je pense qu'il faudrait vraiment... Est-ce que vous avez travaillé tout ça avec un thérapeute, avec un psy, déjà?
Pas vraiment, non, parce que je me suis enfoncée dans ces situations toujours... parce que en fait, je crois que je suis vraiment une proie pour les pervers. Comme vous avez dit, voilà, ma mère était perverse. J'ai épousé un mari qui a été diagnostiqué par expertise psychiatrique pervers, qui m'a kidnappé mes enfants. Bon, de toute façon, tous les gens qui n'ont pas le droit pour eux, ils se débrouillent pour me léser. Moi, je n'ai jamais aucun droit. Oui, il faudrait peut-être que j'élucide ça, mais il faudrait que la situation s'assainisse, parce que tant que je suis dans cette situation,
on m'enfonce un maximum. Parce que
je me sens de plus en plus inférieure.
Parce que vous tournez en boucle sur le même comportement, et c'est normal, on fonctionne tous comme ça. Cette blessure d'humiliation, le seul moyen de vous en débarrasser, c'est de travailler dessus, soit en hypnose, soit avec une thérapie plus classique, et de réinstaurer l'estime de vous-même. De vous redonner la valeur qu'on ne vous a pas donnée quand vous étiez une petite fille. Tant que vous n'aurez pas réinstauré cette valeur-là, quand vous ne serez pas persuadée que vous avez de la valeur, vous attirez des gens qui vous traitent comme si vous n'en aviez pas.
Oui, mais alors vous voyez, moi, j'ai sans arrêt besoin de me prouver que j'ai de la valeur par des activités professionnelles ou autres, où j'arrive à réussir et tout ça. Et puis, paf, on dirait que quelque chose me tombe sur la tête pour me refaire perdre la valeur que j'ai à peine de retrouver.
Parce que vous l'avez trouvée superficiellement, vous n'avez pas travaillé assez en profondeur pour l'installer vraiment comme un socle.
Bon.
C'est logique.
Et vous pensez que ça éloignera les pervers ?
Quand on change soi-même de comportement, on attire des gens différents. Ça, c'est mathématique.
Tant qu'inconsciemment
vous dégagez cette chose-là, qui attire forcément ce même type de personne encore et encore et encore, le même type de situation, le même type d'humiliation.
Oui. Mais j'ai aussi, vous avez dit toutes les choses qui marquent, j'ai aussi le sentiment d'injustice, parce que, je subis l'injustice aussi, et un médecin généraliste m'avait dit, on peut tout vous prendre. Vos enfants, la vie, votre argent, et toutes ces choses-là, on me les a prises, quoi. Donc, je veux en sortir, et puis, bon, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose de peut-être en profondeur, mais juste là, après notre bref entretien, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que je dois changer pour ne pas être une proie pour les gens pervers et méchants?
Ben, c'est ce que je viens de vous dire, mais avant de juste de reparler de ça, il y a quelqu'un dont j'entends pas beaucoup parler dans cette histoire, c'est votre papa.
Eh bien, il était humilié, lui.
Ah tiens.
C'est assez rigolo, vous me faites penser. Il n'avait pas du tout de place. Et en fait, c'est lui qui m'appréciait le plus. Enfin, ma mère, pour elle, j'étais celle que, voilà, il fallait presque éliminer. Beaucoup éliminer.
Oui, c'est...
Et mon père... Il m'a toujours dit, toi, tu seras quelqu'un de bien, mais il fallait qu'il me fasse sentir son appréciation en dehors des yeux de ma mère, parce que elle supporte, même le fait que mon père ait une appréciation de moi, elle le supportait pas, et mon père était complètement écrasé par elle.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il arrive même pas à prendre sa place d'homme par rapport face
à
elle, quoi.
Non,
donc,
pas du tout.
Ouais, ça aussi, c'est une humiliation violente pour un homme.
Ben oui.
Oui. Quand je vous parlais de transgénérationnel, vous voyez, c'est intéressant quand même de prendre conscience des choses.
Oui, que vous m'avez posé une question intéressante, là.
Ce papa-là, il a déjà traîné avec lui cette blessure d'humiliation, avant même votre arrivée au monde. Et votre mère en a rajouté une couche sur vous après, quand vous étiez là. Donc ça fait beaucoup de choses à travailler de ce côté-là. Et puis vraiment, vous savez, ça, une simple question réveille des choses dans votre conscience.
Oui.
Et un simple travail, c'est jamais très simple de travailler sur soi, mais quand on commence à prendre conscience des choses, ce qu'il faut vous dire, c'est que la manière dont cette mère s'est comportée avec vous ne dit rien sur vous. Ça en dit long sur elle.
Ouais, mais c'est dur. On le traîne beaucoup, ça, après. On traîne beaucoup cette humiliation du départ, quoi.
Ben, bien sûr, on traîne beaucoup, mais... Je vous assure qu'on peut travailler là-dessus. Et comme vous dites, vous ne l'avez pas vraiment fait. Vous avez peut-être lu quelques livres de développement personnel.
Oui,
des choses.
J'ai lu beaucoup de livres.
J'entends ça, votre façon de parler. J'ai bien compris.
Oui,
j'ai bien compris, mais quelquefois, il faut, pour gratter un peu plus loin, il faut se faire aider.
Oui, je comprends.
Parce que ces blessures-là, elles peuvent nous pourrir la vie longtemps, la preuve.
Et ça m'a pourri longtemps. Ouais.
Parce qu'on tourne en boucle dans des schémas de fonctionnement qui sont toujours les mêmes, à peu de choses près. Même si des fois on se dit non, là c'est pas tout à fait la même histoire que je rejoue, en fait, si,
ouais.
Sur le fond.
Si, on se retrouve toujours avec ce type. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, moi je suis aussi de mon propre chef. Aller vers des gens pas bien, en pensant que je ne méritais pas les gens bien.
Mais
voyez,
c'est exactement ce qu'on se disait.
C'est dingue, ça.
Parce qu'inconsciemment, on se dit, puisque je ne mérite pas, de toute façon, des gens bien, ce n'est pas pour moi.
Et puis maintenant, je m'aperçois que quand j'ose m'adresser à des gens bien, ils m'apprécient.
Ils s'intéressent à vous. Alors, Marie-Hélène, premier exercice à faire tous les matins, mais vraiment, c'est sérieux. Tous les matins, vous vous regardez dans une glace et vous vous dites « j'ai de la valeur ». Je suis quelqu'un de bien. Comment ça?
Il ne faut pas qu'il m'arrive une tuile dans la journée qui me prouve le contraire.
Au contraire, si vous arrive une tuile dans la journée, vous vous remettez devant un miroir et vous vous redites « j'ai le droit de me casser la figure et de recommencer ». Et de me relever. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et dites-vous à vous-même tous les jours à quel point vous avez de la valeur.
Je me suis même demandé, alors que j'ai été plusieurs fois dans un coma, je me suis même demandé si j'avais le droit de vivre, vous voyez ?
Ah oui, c'est important. Vraiment, allez voir un thérapeute, Marie-Hélène. Il y a un chemin à faire, il y a un travail à faire. Dites-vous tous les jours à quel point vous avez de la valeur. Vous savez, quand on change le regard qu'on a sur soi, le regard des autres sur soi change aussi.
Bon, écoutez, c'est gentil de me dire ça, je vous remercie.
Je suis persuadée que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, et il faut simplement que vous arriviez à réinstaurer ça en vous. Et pour ça, faites-vous aider. Débarrassez-vous de cette fichue blessure d'abandon et de tout ce que votre mère a mis sur vous qui lui appartient à elle, et c'est pas à vous tout ça. Toutes ces humiliations, c'est à elle, c'est pas à vous.
Le mari en a rajouté
ça
fait beaucoup.
Vous aviez enclenché la machine, ça vous l'avez compris.
Voilà.
Mais à un moment donné, vous décrochez le wagon qui est rempli d'humiliations et vous avancez bien plus légère derrière.
Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos encouragements.
Merci à vous de votre confiance.
Merci.
Je vous embrasse.
Je vous embrasse aussi, au revoir.
Merci. Et notre émission va se terminer en douceur. Un grand merci à Marie-Hélène, un grand merci à Florence, à Elisabeth et à Pascal qui sont venus en toute sincérité nous ouvrir leur cœur, partager des moments de vie. Vous le savez, cette Libre Antenne est un espace sur lequel nous pouvons parler de tous les sujets qui vous intéressent, de tout ce qui vous préoccupe, partager des doutes, partager des douleurs, mais aussi partager des bons moments, pourquoi pas, des expériences positives, des rencontres, des choses qui ont pu changer votre vie. Une fois de plus, c'est le partage qui fait la richesse de cette émission. Demain soir à ce micro, vous retrouverez Sophie Peters à partir de 22h30. Moi, je vous retrouve vendredi prochain à 22h30 également. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et je vous quitte puisque nous avons un peu de temps avec plusieurs citations que vous pourrez garder et simplement vous y penser cette semaine, de temps en temps, quand vous aurez envie de travailler un petit peu sur vous et de prendre le temps de réfléchir. Invoquer le hasard, c'est trouver une excuse pour des échecs et une explication pour ses échecs et une explication pour la réussite des autres. Autre citation, à force de courir d'une urgence à l'autre, de se stresser à propos de tout et de rien, on oublie que la seule véritable urgence, c'est de vivre. Et enfin, allez, une petite dernière, le meilleur remède contre la solitude, s'aimer suffisamment pour ne jamais s'ennuyer en sa propre compagnie. Celle-là, je la dédie tout spécialement à Marie-Hélène. Je vous embrasse, je vous souhaite d'abord une bonne nuit, ensuite une bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain. Et je vous laisse dans un instant avec Pierre Bellemare.